France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous vous invitons à partager aujourd'hui un moment d'exception grâce à une archive de 1979. Cette année-là, Léonard Bernstein était à Paris, à la tête de l'Orchestre National de France, pour y donner quatre concerts-événements. Parmi eux, celui du 20 septembre, où l'on assistait à la création française de Songfest, un cycle de 12 mélodies composées et dirigées par Léonard Bernstein avec l'Orchestre National de France. Avec beaucoup d'humour et dans un français délicieux, Bernstein présente et commente ses poèmes qu'il a mis en musique.
Bonjour. Mes chers amis français, ce soir, je voudrais tenter une chose que je n'ai jamais faite jusqu'à présent. J'ai très souvent essayé d'expliquer la musique dans les salles de concert, à la télévision, etc., mais jamais dans votre langue, cette langue de Racine, de Gide, de Mallarmé, de Paul Valéry. Et cela me tient particulièrement à cœur, parce qu'il s'agit cette fois de ma propre musique, ma plus récente composition, Songfest. Que veut dire Songfest? Eh bien, je me suis figuré ce mot dans le sens d'une fête de chansons, de mélodies et d'air, tout ce qu'en Amérique nous appelons « songs ». Même si dans ces songs, il ne s'agit pas toujours de festivité ou de gaieté. Voilà ce que je voudrais faire. Avant de jouer chaque chanson de ce cycle, je ferai quelques remarques en vue d'éclairer, autant qu'il m'est possible, le texte et la musique. J'ai écrit cette œuvre en l'honneur du bicentenaire des États-Unis, moins pour célébrer la gloire de mon pays que celle de ses artistes et en particulier de ses poètes. Ce cycle, avec ses 12 songs, met en musique des poèmes américains qui couvrent plus de 300 ans de vie américaine. La musique révèle donc nos aspects euphoriques autant que nos côtés plus sombres. Mais Songfest reste une célébration joyeuse. 6 chanteurs de langue anglaise chantent seuls ou ensemble, comme des amis qui voudraient se divertir après un dîner, non pas seulement pour leur propre plaisir, mais aussi pour celui des invités. Bien entendu, il y a également un orchestre symphonique, comme vous voyez, mais je vous prie, ne me demandez pas ce que vient faire un orchestre symphonique à une dinner party. Songfest commence par un hymne au tempo allegro frescamente, dans lequel tous les 6 chanteurs proclament le splendide credo artistique du poète Frank O'Hara, mort très jeune il y a peu de temps. Ça s'intitule « To the poem »,« au poème ». Et c'est le premier de 3 sextuors, dont l'un se trouve au début, le deuxième au milieu et le troisième à la fin. Et entre ces sextuors viendront 6 chansons à une voix, une pour chaque chanteur, naturellement, et des autres morceaux pour ensemble, des duos, un trio et ainsi de suite. J'espère que vous trouverez que ces songs appartiennent bien à la fête, au vrai sens du mot, qu'ils soient gais, méditatifs, tristes ou même amers. Ensemble, ils célèbrent l'expérience artistique américaine. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter mes 6 amis chanteurs.
Thank you.
pourquoi est-ce que j'ai choisi justement ce poème de O'Hara pour commencer Songfest? Parce que, avec une concision remarquable, il exprime mes intentions précises pour le cycle tout entier. Quelque chose de grandiose, comme O'Hara le dit, grandiose parce que notre pays est géographiquement si grand, mais aussi quelque chose de petit, petit dans le sens de modeste, modeste parce que nous sommes tellement jeunes. Comme il parle aussi d'importants et de non-américains, ce qui ne veut pas dire anti-américains, mais tout simplement sans esprit cocardier, sans chauvinisme. Cela est une expression typique du paradoxe américain. Grandiose, petit, important, et aussi railleur, et sans nationalisme. Et pourtant, chaque poème est foncièrement américain dans son être, et ceci est le paradoxe le plus déroutant de tous. Je crois que vous comprendrez mieux tout ça quand vous aurez entendu le sens suivant, la première de trois chansons solo qui vont suivre. Ici, le baryton chante l'expérience aigre-douce d'un amour adolescent manqué qui se déroula chez un marchand de bonbons à un sou. Et de nouveau le paradoxe, l'image de douceur, d'une sensualité, d'un érotisme jeune et doux, contrastant avec l'image de désespoir évoquée par la chute des feuilles mortes au dehors. Le son est fort court, une minute à peu près, et peut-être non américain au sens donné par O'Hara, parce qu'il se sert tout entier de la technique dodécaphonique de Schoenberg. Mais en même temps, c'est du jazz pur, donc américain. Oui, vous voyez, nous autres Américains, nous sommes un peuple paradoxal. Et maintenant, voici The Penny Candy Store Beyond the L, chez le marchand de bonbons à un sou au-delà du métro aérien, du poète contemporain Lawrence Ferlinghetti.
The penny candy store beyond the air is where I first fell in love with unreality. Jelly beans glowed in the semi blue of that September afternoon. A cat upon the counter among the licorice sticks, and Tootsie Rolls, and oh my God. Outside the leaves were falling as they died, a wind had blown away the sun. A girl ran in, her hair was rainy. A girl ran in, rainy. Her breasts were breathless in the little moon. Outside the leaves were falling, and they cried too soon.
Dans le troisième solo, chanté par la basse, nous retrouvons une situation paradoxale. Le texte est de Walt Whitman, le plus grand poète d'Amérique, le fameux « Grand Old Man », dont la poésie représente tout ce qu'il y avait de fort de positif et de viril dans la vie américaine au XIXe siècle. Et pourtant, il y a ce petit poème secret, « To what you said », à ce que tu m'as dit, inédit de son vivant, et retrouvé dans une cachette il y a quelques années seulement. Il s'agit d'une protestation contre les amours conventionnels en face desquelles le poète avoue aimer les jeunes hommes. Mais cet aveu est plein de fierté. J'introduis ce nouveau salut américain. Je suis celui qui embrasse son camarade légèrement sur les lèvres au moment de se quitter, et je suis celui qu'on embrasse à son tour. À propos, si vous entendez des bruits que vous ne pouvez pas tout à fait distinguer, alors ce sont les 5 autres chanteurs qui l'accompagnent à bouche fermée, comme dans la communion la plus profonde.
And I am one who is kissed in return.
voici le moment venu pour un duo. Un duo en français. Et c'est là vraiment un paradoxe, parce qu'il s'agit d'une combinaison de deux poèmes tout à fait différents, contrastés, qui ont été écrits par deux poètes noirs et qui seront chantés ensemble. Le baryton chantera une chanson contestataire, style opéra, dans le genre de Walt Whitman lui-même, qui avait écrit un long poème très connu, « Je chante l'Amérique ». Ici, le baryton fait allusion à Whitman en chantant « Moi aussi, je chante l'Amérique. Je suis le frère plus foncé. Ils m'envoient manger à la cuisine quand ils le reçoivent. Mais je ris et mange bien et deviens fort. » Ce sont là les paroles du poète noir Langston Hughes, écrites vers le début du XXe siècle. Mais en même temps, la mezzo-soprano chantera un poème nettement moins style opéra, un poème cynique d'aujourd'hui, qui s'appelle « OK Negroes » de June Jordan. June Jordan. L'optimisme indompté du poème de Hughes est presque anéanti par le scepticisme ironique du poème de June Jordan. Elle dit, par exemple, « Tu crois que ongles propres, jambes croisées, un sourire, chaussures cirées, tu crois qu'il va te donner quelque chose ?» C'est de l'anglais noir, comme nous l'appelons. C'est un combat qui va jusqu'au bout, et comme je le vois, ils gagnent tous les deux.
Thank you. come a little closer. Where are you from?
Et maintenant, plus de paradoxes, seulement un très beau poème du XVIIe siècle du poète Anne Bradstreet, intitulé « To my dear and loving husband », à mon cher et tendre époux. C'est tout simplement un poème d'amour, comme on en écrivait autrefois, écrit par une ménagère du Massachusetts, mais bien sûr très douée et très instruite. Imaginez-vous une femme poète en Amérique en 1650, une voix dans le désert. Le seul paradoxe dans ce chant d'amour est que je l'ai écrit pour trois voix de femmes et non pas pour une seule. Pourquoi trois voix? Je ne sais pas. Voilà le mystère de l'art.
Thank you.
voici de nouveau un paradoxe. Gertrude Stein. Vous connaissez tous Gertrude Stein, presque parisienne, ayant habité Paris presque toute sa vie. L'œuvre de Gertrude Stein se nourrit de paradoxes. L'œuvre semble tout à fait simple et logique, et puis, d'un seul coup, ça commence à se répéter presque jusqu'au non-sens. Au lieu de tenter de l'expliquer, ce qui n'est pas possible en tout cas, permettez-moi de vous réciter cette storyette H.M. On prétend que H.M. signifierait Henri Matisse. Quelqu'un était marié avec un autre. Ce quelqu'un partait, histoire de s'amuser. L'autre, qui était marié avec celui-là, n'aimait pas beaucoup que celui-là avec lequel l'autre était marié, alors partait seul, histoire de s'amuser, et laissait alors l'autre seul à la maison. Celui qui partait avait tout ce qu'il fallait pour s'amuser comme il voulait alors. Il entra rayonnant. L'autre qu'il laissait à la maison pour s'occuper de la famille ne rayonnait pas. Celui qui partait disait, celui qui rayonnait, celui qui partait disait alors, « Je suis bien, tu n'es pas bien. Je suis bien, tu n'es pas bien. Je suis bien, tu es bien. Tu es bien, je suis bien. » Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé? J'ai peut-être rendu l'énigme encore plus compliquée en écrivant cette Stein historiette pour deux voix, basse et soprano, au lieu de la seule voix utilisée par Stein. Est-ce que c'est fair play? Qu'est-ce qui est fair en art? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne saurais vous le dire. Je ne suis que le compositeur. C'est le moment du deuxième sextuor. Et vous reconnaîtrez peut-être le style de cette musique, chanson pop des années 20, comme celle des Rhythm Boys, si connue, avec lesquels Bing Crosby a enregistré son premier disque. Pourquoi tout d'un coup cet ancien style pop? Parce que c'est le style du poème, un magnifique petit souvenir de la bohème des années 20 par un virtuose de la langue, le poète E.E. Cummings. Et celui-là, j'ai envie de vous le dire. Si tu ne peux pas manger, faut fumer. Et on n'a rien à fumer. Viens, baby, allons dormir. Si tu ne peux pas fumer, faut chanter. Et on n'a rien à chanter. Viens, baby, allons dormir. Si tu ne peux pas chanter, faut mourir. Et on n'a rien à mourir. Viens, baby, allons dormir. Si tu ne peux pas mourir, faut rêver. Et on n'a rien à rêver. Viens, baby, allons dormir. Entrée du ténor. Son solo s'appelle Zizi's Lament, la complainte de Zizi. Et de nouveau, nous nous trouvons en face d'une ambiguïté. Qui est Zizi ? Homme, femme ou les deux ? Autre ambiguïté, le poète Gregory Corso, un des beat poètes des années 50, est américain, mais le poème se situe en Afrique du Nord, tout comme Zizi, probablement. L'ambiance musicale est pseudo-arabe, avec des échos d'Aïda et avec un soupçon de danse du ventre. Quelle est la complainte de Zizi ? Il ou elle vieillit et devient de plus en plus solitaire. Rien ne le ou la satisfait. Que cherche cette androgyne ? La maladie du rire. Il ou elle crève d'envie d'attraper la maladie du rire. Alors, essayons de communiquer cette maladie au pauvre ténor. Je pense que la complainte de Zizi, tout comme celle de Conrad Aiken, chantée par la mezzo-soprano, est aussi une plainte pour un amour perdu. En ce cas-ci, l'amour de vivre qui a été perdu. Maintenant, l'alto chante encore l'amour perdu dans un magnifique sonnet de Edna St. Vincent Millay. Elle chante les amants de sa jeunesse, déjà à moitié oubliés, estompés dans le brouillard du souvenir. Millet, morte en 1950, fut un maître du sonnet, et ce poème-ci, « What lips my lips have kissed »,« Quelles lèvres mes lèvres ont embrassées », peut, à mon avis, être classé parmi les sonnets de Keats, de Wordsworth ou de Baudelaire. Tout poème est difficile à traduire, un sonnet encore plus. Cela tient à sa forme particulière à 14 vers et à sa dépendance subtile à l'égard de la rime. Pour cette raison, je voudrais vous lire ce sonnet en anglais afin que vous puissiez sentir la beauté de ses sonorités. Voici les 8 premiers vers. What lips my lips have kissed, and where and why I have forgotten, and what arms have lain under my head till morning, but the rain is full of ghosts tonight that tap and sigh upon the glass and listen for reply. And in my heart there stirs a quiet pain for unremembered lads who not again will turn to me at midnight with a cry. N'est-ce pas d'une résonance magnifique? Enfin, le cycle réclame sa conclusion dans une véritable ambiance de fête et l'exubérant poème Israfel est offert par notre grand Edgar Poe dans une de ses effusions de romantisme. Vous savez tous que Israfel est l'archange de la musique dans le Coran et que même les étoiles s'arrêtent pour admirer la beauté de sa voix et de sa lyre. Et Poe, après l'avoir longuement et joliment loué, est tout d'un coup saisi de jalousie et il dit « Si je pouvais habiter là où Israfel a habité et lui où j'habite moi, il ne chanterait peut-être pas aussi sauvagement bien une mélodie mortelle, tandis que de ma lyre au ciel s'élèverait une note plus audacieuse que celle-ci. » Une mélodie mortelle, c'est une des images clés les plus fortes dans le cycle. Et ce que Poe nous dit avec tant de souffle n'est qu'un élargissement de l'idée que O'Hara a exprimé dans notre premier poème en si peu de mots. Nous autres, artistes américains, nous ne prétendons pas avoir les clés des vérités universelles, comme par exemple Goethe, Shakespeare ou Voltaire. Nous disons ce que nous devons dire et ce que nous sommes. Si nous vivions ailleurs, nous serions autres que nous sommes. Ce que soient des anges, des supermen ou des Américains idéaux, alors peut-être nous pourrions aspirer à l'immortalité, mais tels que nous sommes, nous ne créons qu'une mélodie mortelle, ce que O'Hara avait appelé notre « real right thing », notre chose vraiment bien, grandiose, petite, mais importante parce qu'elle doit être dite. Voilà le paradoxe fondamental de Songfest. Et ainsi le cycle prend fin avec le troisième et dernier sextuor dans lequel la fin contient le début. Ce que Poe et O'Hara ont tous les deux voulu exprimer comme tous les autres poètes du cycle et je pense ce que j'ai voulu exprimer avec ma musique. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas même des archanges, nous ne sommes que des artistes. Nous nous battons avec nos paroles et avec notre musique et nous louons Dieu de nous avoir donné la possibilité de le faire.
Thank you.
Ainsi s'achève ce concert donné au Théâtre des Champs-Élysées le 20 septembre 1979. Léonard Bernstein dirigeait son cycle de mélodies Songfest avec l'Orchestre National de France. Cette archive est disponible à la réécoute sur le site francemusique.fr sur la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, Dalia pour la prise de son, avec la collaboration des documentalistes de l'INA, Marine Decamp, Gwen Michel et Marie Chauveau.
À réécouter sur francemusique.fr.